Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Abigail Serrant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, directrice de la MEL, la Maison des écrivaines, écrivains et des littératures de Montais. C'est un anniversaire qui nous fait nous rencontrer. La MEL a 4 ans. On va parler de ses activités, de son aventure aussi, hein, parce que ça a été une sacrée aventure. Cette émission, c'est un lieu de rendez-vous. Alors bon, voilà, on y est, à la MEL.
Oui, bah, c'était assez naturel d'être ici au château, dans les locaux. C'est un lieu qui est un chouette lieu d'accueil, donc j'avais envie de vous y accueillir.
C'est un joli lieu de travail aussi, visiblement.
Oui, hein. C'est un grand luxe de pouvoir dire qu'on est au château. C'est vrai que c'est un des plaisirs d'expliquer qu'on travaille au château et puis de pouvoir citer le château de Montais aussi quand on explique aux gens comment l'atteindre. De dire que ce sont les escaliers en face du canon, c'est toujours assez rigolo. Ouais.
Et puis c'est une maison fléchée par ses paillassons.
Oui, c'était une idée de ma collègue et on ne savait pas
parce
combien de temps
on resterait. Parce que dans le château de Montais, il y a plusieurs escaliers, il y a plusieurs possibilités.
Absolument.
Et au carrefour, hop, il y a un paillasson.
Exactement, il y a des paillassons, donc il faut regarder par terre pour venir jusqu'à nous.
Voilà, mais il faut quand même avoir un petit peu les yeux dans le ciel pour faire œuvre d'écriture et de littérature. Alors vous avez écrit quelques romans, je crois qu'on est à 5 maintenant, le cinquième en 2022, hein,
oui.
Avec d'autres contributions. Vous avez, alors j'ai vu ça, maturité littéraire. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et puis, le droit. Est-ce qu'il y a eu une sorte de moment où on s'est dit « Non, je vais quand même faire un truc sérieux ».
Presque. J'avais effectivement prévu de faire des lettres. Et puis, j'ai beaucoup hésité parce que je ne savais pas exactement quelle direction j'allais prendre après. Et vraiment, à quelques jours des délais d'inscription, je me suis dit « Allons dans un domaine qui sera très large et puis qui me permettra d'aller je ne sais où ». Et j'ai fait ce que beaucoup de juristes font, c'est-à-dire que j'ai fait mes études de droit, puis ensuite j'en suis sortie. J'ai mis quelques années pour en sortir, mais
alors ensuite c'est marrant, moi j'ai exactement le même itinéraire. Mais, j'ai mis 3 mois à en sortir. J'ai 3 mois, je me suis dit non, c'est pas possible.
Oui, alors j'ai mis un peu plus long, j'ai mis une vingtaine d'années pour vraiment en sortir complètement. Et j'ai
parce qu'après les études, vous avez quand même travaillé en matière juridique, etc. L'idée d'écrire, l'envie d'écriture, elle est depuis toujours, c'est une affaire d'enfant.
Je pense qu'elle est là depuis très longtemps. En tout cas, moi, je me souviens bien des dissertations, notamment de Pierre-François Mettan, et j'essayais parfois de sortir un peu du sujet.
Voici avec un deuxième point commun.
Oui, ah ben bah, voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément marqué, avec Bernard Athanasiadès aussi, qui a été un professeur de français du Collège de Saint-Maurice, qui peut-être nous écoute, donc je salue, et qui a été très important dans le parcours. Donc je pense qu'il y a toujours eu cette envie, mais entre l'envie et la réalisation, j'ai mis un peu plus longtemps parce que je suis effectivement restée coincée dans le droit bien quelques années avant d'oser me lancer.
Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est se prétendre, s'envisager écrivain. Hein. Déjà pour passer la porte de cette maison, puisqu'on va voir qu'elle est destinée à ces gens-là, hein, qui tout à coup se disent « Tiens, moi j'ai envie d'écrire » et puis à un moment donné, il va bien falloir que je mette ce mot écrivain sur cette ambition. C'est un pas quand même. Hein.
C'est un pas que j'ai mis extrêmement longtemps à franchir. Je crois que la première fois, c'est une journaliste qui, après Jardin d'été, donc c'était quand même mon troisième roman et puis mon quatrième ouvrage, qui a dit que j'étais écrivaine et je suis presque restée pétrifiée. Exactement. C'était un grand mot, pas un gros mot, mais un grand mot. Et j'ai mis extrêmement longtemps pour avoir le droit de l'utiliser, de m'autoriser de l'utiliser.
C'est bien parce qu'avec l'intitulé de la maison, hein, dont vous êtes la directrice, mais aussi une des initiatrices, donc cette maison, c'est vous. On se demande pas s'il faut dire autrice, écrivaine. vous avez choisi. Hein.
Oui, ça avait été une discussion assez importante, mais on avait envie de quelque chose d'inclusif et c'est pour ça qu'on a mentionné écrivaine et écrivain en étant le plus ouvert possible. Et puis je crois que ce sont des mots, enfin auteur, autrice, auteurice aussi, maintenant on dit pour avoir ce mot valise, pour avoir les hommes et les femmes, exactement. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Au début, ça a heurté un peu les oreilles de tout le monde et puis aujourd'hui, je crois que c'est gentiment passé dans le langage courant.
Moi, je vais faire une sorte d'aveu de mon parcours de déconstruction. Au début, quand j'entendais écrivaine, j'entendais veine, la vacuité, hein, quelque chose de vain. Puis je me suis dit, mais pourquoi t'entends pas ça quand t'entends écrivain? Oui, parce qu'il y a 20. Hein,
c'est vrai.
Voilà, donc c'est bien. Il faut travailler, il faut travailler à ces choses-là. J'ai vu qu'il y a un parcours d'écriture avec une grosse production hein, au mi-temps des années 2010, 2013, 2020, en gros, avec plusieurs romans, une vraie activité presque annuelle. Et puis tout à coup, pouf, une petite pause. C'est la pause mêle.
Alors, c'est un peu la pause mêle, effectivement. C'est très difficile de s'occuper de soi quand on s'occupe des autres. Mais il va y avoir une sortie en janvier 2026.
Bon, c'était déjà reparti en 2022.
Oui, c'était reparti en 2022, et puis en 2024, il y a eu la sortie de Jardin d'été au format poche, donc je dirais que ça a continué de vivre, mais quand même effectivement de manière plus marginale. Aussi, la pause du Covid, j'ai pas du tout réussi à écrire pendant le Covid, contrairement à d'autres qui ont trouvé cette phase merveilleuse au niveau de l'inspiration et de la production. Moi, ça a été vraiment un grand, grand passage à vide. Et puis la mêle, c'est vrai que c'est vraiment un lieu
Vous avez compris pourquoi ce passage à vide ?
Non,
on peut se dire l'exercice d'écriture est un exercice de solitude. Le Covid a sinon encouragé, du moins favorisé ces moments de solitude. Alors après, il y a les familles, évidemment. Hein, là, chacun a son univers. Mais pourquoi ça a été un blocage, vous pensez ?
Peut-être parce que moi, j'ai besoin d'une certaine sérénité pour écrire. Et que la période était
sereine,
non,
ouais.
Vraiment pas sereine. C'était parfois assez anxiogène. J'ai aussi beaucoup travaillé comme juriste à l'époque dans un syndicat. Donc, on avait tous les mercredis les conférences du Conseil fédéral qui nous obligeaient à repenser les choses, puisqu'on n'a jamais eu un droit qui changeait aussi vite qu'à cette période-là. Et probablement que c'est lié à ça. En tout cas, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de retrouver des bulles pour pouvoir écrire. Et maintenant que la mêle retrouve un peu plus son rythme de croisière, enfin trouve son rythme de croisière,
oui.
Ouais, je pense que ça permet d'y revenir. Mais c'est pas facile de se laisser une place pour soi quand on s'occupe de tant de gens qui ont des super projets qu'on avait envie de porter vers d'autres.
Ouais, et puis c'est un muscle, hein, l'écriture.
Oui, exactement.
C'est vachement dur, c'est comme le fitness, hein, c'est
absolument.
Vachement dur de s'y remettre. En fait.
Tout à fait, tout à fait. Plus on est dedans et plus on le fait de manière régulière, plus c'est facile et plus on attend, plus on est dans cette position où on doit s'y remettre, comme la course à pied ou le fitness. C'est compliqué quand on rechausse les baskets et qu'il faut y retourner.
Alors, j'ai vu que sur votre page Wikipédia, il y a cette notion de être parti et revenir, monter comme source, vous y êtes né, hein,
oui.
Voilà, donc monter comme retour aux sources. Alors vous avez bossé dans plusieurs cantons romands, vous avez aussi étudié et voyagé à l'étranger. Qu'est-ce qui signifie ce retour ?
Ça a été très émouvant de voir que la ville avait changé, que j'avais changé et qu'en même temps rien n'avait changé. Donc il y avait cette espèce de duplicité entre le temps qui passe, des choses qui ont complètement évolué, la ville qui a une autre géographie et en même temps des choses...
Vous êtes parti 30 ans ou...
presque, alors j'y reviens régulièrement, ouais. J'ai ma famille, mais d'y habiter presque 20 ans, donc on voit quand même des choses qui sont différentes, des repères qui n'existent plus, et puis d'autres qui sont toujours là. Donc c'était presque schizophrène. Je l'ai exploité d'ailleurs dans mon roman D'ici et d'ailleurs, où mon héroïne fait ce pas de revenir dans la ville de son enfance. Alors elle reste 3 semaines. Moi, ça fait 9 ans que je suis de retour et je pense pas que je vais en repartir. Oh. Mais il y a cette idée des choses, du temps qui passe et de la manière dont on
retrouve. Il y a une tristesse, une nostalgie. Je pense à ce Victor Hugo, hein, la tristesse d'Olympio.
Oui.
Comment on massacre nos images d'enfance, de jeunesse, comment on change le nom de nos rues.
J'ai pas l'impression, il y a parfois une nostalgie, mais elle est plutôt tendre, je dirais que c'est plutôt quelque chose d'assez doux, et puis on recroise des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ça fait remonter, je trouve, toute son enfance, son adolescence, donc non, c'est plutôt chaud et doux, je trouve, il n'y a pas du tout de négativité là-dedans, et puis de voir des lieux qui évoluent, qui changent, de se dire qu'on peut apporter quelque chose aussi à l'endroit qui nous a formés, qui nous a vus naître, c'est super aussi, donc c'est plutôt positif, je trouve.
Bon, c'est marrant, quand vous avez dit j'ai utilisé ce sentiment, je pensais que vous alliez me parler d'écrire ma ville, qui a été un projet aussi autour de la contemplation d'une ville, projet collectif là pour le coup, mais dont vous êtes à l'origine. Avec d'autres, ouais.
Oui, qui a été porté aussi par Éric Morisot, Daniel Berru et puis Yves Terrani. Et c'est vrai que Oui, certes, mais là, c'était plutôt une manière de revisiter la vision des autres. Donc, en fait, on est remonté dans le temps. Et puis, on a eu la chance d'avoir des personnes âgées qui ont raconté parfois les histoires de leurs grands-parents. Donc, on est remonté sur plus d'un siècle. C'était un autre voyage dans la ville. Et puis, c'est vrai que peut-être je l'oublie un peu parce que depuis Montaigne en 2018, sorti en 2019, bah, il y en a eu cinq autres.
Mais justement, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on va, l'évoquer un petit peu quand même. Ce joli projet né à Montaigne a fait son petit bonhomme de chemin. Dans d'autres villes de Suisse, peut-être même d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors pour l'instant, elle n'a pas passé les frontières, outre les frontières cantonales, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'aller à Sion, d'aller à Lausanne, d'aller à Neuchâtel, à Bernay, et puis tout dernièrement, puisqu'il y a moins d'une année, on a verni le livre d'Yverdon. Donc c'est un chemin assez intéressant parce que ça permet d'aller à la rencontre de lieux que parfois on connaît ou que parfois on ne connaît pas.
C'est les municipalités qui viennent vous chercher.
Parfois, Bernay, ça a été le cas. Parfois, ce sont des gens de la société civile qui avaient envie d'implanter le projet. Parfois, ce sont des écrivaines et des écrivains qui se sont dit « Ah, ça serait sympa de faire ça à cet endroit-là. »
Je vous pose la question parce qu'il y a une tendance, il y a tout un pan de l'édition qui est consacré aux proches. Je pense à la maison Cabedita, par exemple, en Suisse romande, qui est très axée justement et qui est sollicitée par des associations, des municipalités, etc. pour dire « Venez, là, il y a un truc d'histoire, par exemple, et il y a donc là une recherche d'identité collective et votre projet, c'est une réponse à ça.
Oui, tout à fait. Et puis c'est souvent arrivé des moments où justement des moments de transition, ça a été le cas pour Bernay. Bernay voyait revenir le tram dans sa ville, avait un grand quartier qui allait sortir de terre et donc il y avait l'idée d'accompagner cette mue. Pareil à Neuchâtel, tout d'un coup il y a la fusion avec des communes alentours, donc ça redessine la géographie et la géographie politique du lieu. Et c'est vrai que le projet arrive à point nommé quand c'est comme ça.
Bon, il est prêt en tout cas à continuer son aventure. Et
appelez-moi.
Nous aussi, ça sera dans la deuxième partie de cette émission. On va parler de la Mel cette fois et de cet anniversaire des 4 ans.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Abigail Serrant, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On est dans cette maison des écrivaines, des écrivains et des littératures à Montaigne. Je dis à Montaigne et pas de Montaigne, parce que vraiment, cette aventure-là avait dès sa naissance vocation à être régionale, cantonale et peut-être même extra-cantonale, romande. Cette ambition-là, elle est toujours là, elle est gagnée.
Elle est plus que jamais là. Je pense qu'elle est même très présente par rapport aux intervenantes et intervenants qui viennent à la MEL. On a vraiment une programmation qui est romande et qui déborde gentiment aussi sur la France. Et on voit que le public qui vient à la MEL est aussi roman et français. Donc on a la chance de pouvoir atteindre la France par le Pas de Morgin et Châtel, mais aussi du côté d'Évian. Et on a régulièrement des gens qui passent la frontière et qui viennent à la MEL de toute la périphérie de Montaigne, si j'ose parler de Montaigne comme centre du monde.
Mais oui. On peut claquer le museau de Dali et de sa gare de Perpignan. Après tout, on met le centre du monde là où on veut. Hein.
C'est ça.
Voilà, c'était bien une affaire de nombril pour lui aussi, de toute façon. Bon, y a un truc qui est pas tellement francophone, j'ai l'impression, dans cette notion de maison des écrivains. J'ai d'ailleurs lu que l'inspiration était plutôt venue des pays anglo-saxons, hein, de l'Irlande. Oui. D'où ça vient, cette idée de réunir ceux qui, par définition, sont des solitaires?
Alors, j'ai eu la chance de séjourner un an, il y a 10 ans maintenant, en Irlande, et j'ai découvert l'Irish Writer Center, donc le centre pour les écrivaines, écrivains, traductrices, traducteurs irlandais. Et ça a été une révélation, ce lieu d'accueil où j'ai suivi des cours de lecture à voix haute, par exemple, sur des textes en anglais. Donc, je ne vous explique pas, c'était un peu l'aventure.
T'es obligé de lire du Joyce
aussi,
en Irlande, hein.
Aussi,
c'est dur.
Tout à fait, ce qui n'est effectivement pas une mince affaire. Et j'avais vraiment apprécié le fait d'être entourée, d'être accompagnée dans mon métier et de recevoir une validation. On a très peu d'écoles à part l'Institut littéraire suisse à Bienne. C'est la seule école en Suisse. Donc finalement, on arrive tous ou toutes par des chemins d'écriture un peu détournés et du coup, un centre qui vous permette d'expérimenter, de rencontrer d'autres gens, de sortir de cette solitude. Moi, j'avais trouvé ça génial en Irlande et j'avais dit un peu sur le ton de la boutade, un jour, il y aura à Montaigne. Le Covid est passé par là, les projets de transformation sont passés par là. C'est un projet qui a été choisi et c'est vrai que ça fait maintenant effectivement 4 ans, 3 ans officiellement que nous sommes ouverts, mais 4 ans de travail pour que la MEL existe. Et je crois que les autrices et les auteurs qui viennent ici retrouvent ça. En tout cas, j'essaye.
Alors, on va en parler de ça, mais d'abord, encore une fois, la genèse, il a fallu aller convaincre. Vous nous rappelez là qu'il y avait eu en effet une sorte d'appel à projet de renouvellement culturel, hein, oui. Je ne sais pas si le mot est juste, mais...
Oui,
mais
c'est ça, d'adaptation du voilà. monde culturel à cette situation nouvelle qu'était le Covid, tout a été fermé, maintenant ça nous paraît fou, enfin, personnellement j'ai de la peine à me souvenir que c'était assez, à ce point-là fermé, mais les appels à projets ont été, il y en a eu deux, on ne savait pas au moment où on a déposé le premier qu'il y en aurait deux, et il y a eu cette idée de dire comment est-ce qu'on peut renouveler la littérature, sachant que la littérature avait été peu indemnisée parce que les modes de paiement par droit d'auteur sont extrêmement marginaux, et on a eu, moi j'avais lancé cette idée quelques années auparavant dans le cadre de la mise en place de Littérature Pro, et Pierre-André Milite a eu ce réflexe 48 heures avant le projet
président de la Société des auteurs valaisans,
président de la Société des auteurs des écrivains valaisans et président de la MEL maintenant, a eu ce
auteur
réflexe
pardon
tout à fait et a eu ce réflexe de dire est-ce que ce serait pas un projet de transformation, et effectivement on a déposé ce projet un peu vite, qui n'était pas tout à fait abouti, bien sûr, puisqu'il a eu 48 heures, mais on a eu la chance qu'il intéresse et de pouvoir le retravailler et finalement qu'il soit choisi pour être mis en place, donc avec un lancement qui a eu lieu en septembre-octobre 2022.
On n'a pas eu, on a pas eu de réaction de frilosité de la part du canton C'est plutôt bon accueil.
Plutôt bon accueil, et puis je crois que le fait que la ville, que nous avions interpellée pour savoir si c'était prêt à entrer en matière, ait accepté tout de suite de nous loger, et je remercie encore Stéphane Coppet et la ville de Monthey à l'époque d'avoir eu ce réflexe-là, a fait qu'il y a eu cette idée de dire, bon, ok, c'est soutenu, donc en fait, on va faire confiance et on va y aller. Probablement aussi que le fait de savoir que les projets comme Décrire ma ville avaient abouti, que j'avais porté auparavant, a certainement aussi... contribuer, et puis on a eu à cœur de tenir l'engagement qu'on avait pris. On a aujourd'hui 58 événements par année, donc c'est la preuve qu'on a fait le job, je crois, jusqu'au bout.
Alors les événements, ce sont des conférences, ce sont des ateliers d'écriture, ce sont toutes sortes de choses, à la fois spécialisées, donc à destination de gens qui se pensent et qui veulent cet exercice de l'écriture. Et puis, grand public aussi, il y a une conférence,
oui,
tout le monde peut venir, etc. Avant qu'on y vienne, les écrivaines, écrivains qui viennent ici en recherche de soutien, qu'est-ce que vous leur apportez ?
Alors, pour ce qui est des professionnels, on leur apporte souvent des mandats. Maintenant, on est vraiment identifié comme un lieu relais. Donc, quand on a besoin d'un écrivaine ou d'une écrivaine ou d'un écrivain pour un projet, eh bien, on s'adresse à la MEL et nous servons de relais. On va ensuite... proposer à nos membres de dire ben voilà, il y a un projet, si ça vous intéresse vous pouvez prendre contact. On est aussi un lieu où on peut venir travailler, se retrouver, donc on fait une espèce de forme de résidence de jour, on est ouvert 2 jours et demi par semaine et les membres peuvent venir se faire un thé, un café, un sirop, prendre du chocolat parce qu'il y a toujours du chocolat à la MEL, et puis s'installer pour travailler dans un cadre qui est vraiment fait pour ça, où on n'est pas dérangé, et ça c'est aussi extrêmement précieux. Et puis on essaye de vraiment mettre en lumière et en avant les écrivaines et les écrivains. Deux fois par an, on organise des rencontres avec les libraires et les bibliothécaires, qui sont des rencontres gratuites pour les libraires et les bibliothécaires, qui auront lieu d'ailleurs le 3 novembre, lundi 3 novembre, la prochaine. On le trouve sur notre site. Et ça permet, nous, on fait un travail de mise en avant. On parle des auteuristes, on parle de leurs ouvrages, et on assure ce relais qui, parfois, est difficile à avoir sur la littérature romande, puisqu'il comprend beaucoup de petites maisons qui n'ont pas les moyens de permettre aux ouvrages d'aller plus loin.
Ça veut dire, ça veut dire une vraie ambition de faire connaître.
Oui.
On va parler du métier d'écrivain en Suisse romande, c'est compliqué, hein. c'est pas anodin d'y revenir. Là, vous m'avez parlé des pros, donc ceux qui ont déjà une expérience, qui ont déjà publié probablement. Il y a aussi une sorte de promesse de formation, hein, dans le cahier des charges.
Tout à fait, et c'est vraiment très important pour nous, c'est-à-dire qu'on a des cycles de l'édition où on permet à des émergents ou des débutants de se familiariser avec ce monde littéraire qu'on connaît souvent assez mal, tant qu'on n'y a pas été confronté.
On sait qu'on va devoir mettre son manuscrit dans une enveloppe et croiser les doigts pour que quelqu'un l'ouvre.
Et le faire...
dans 15 enveloppes.
Oui, et puis aussi, comment est-ce qu'on se donne le plus de chances? Comment est-ce qu'on arrive à aller au bout de ce projet de publication? Qu'est-ce que ça implique aussi? Et effectivement, on a plusieurs cycles de l'édition. Qu'est-ce qu'on doit accepter ou qu'est-ce qu'on peut accepter dans un contrat d'édition? Qu'est-ce qu'on ne doit pas accepter? aider. Ça fait partie aussi de cet accompagnement-là. Et puis, régulièrement, maintenant, on a des appels, les gens qui ont des questions ou qui aimeraient un mentorat ou qui auraient besoin de conseils. Et puis, on sert un peu de boussole dans ce monde qui est nouveau pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans cette très belle aventure de la publication.
Bon, ça, c'est tout le monde de l'après-écriture. Oui. Hein. Il y a aussi le monde de l'écriture elle-même, oui. Avec des ateliers, des masterclass, comment on traduit une idée en réalité écrite.
Et puis là, on accueille plein de gens. En masterclass, cette année, on aura Joséphine Cardona, qui n'est pas n'importe qui en Suisse romande et même dans le monde francophone. On aura aussi, par exemple, Florent Morisot en termes d'écriture de slam à fin novembre. Donc, on essaye aussi de sortir de la vision traditionnelle de l'écriture. Et puis, on a tous les ateliers du jeudi où on a des auteuristes professionnels qui viennent partager leurs univers. Un des prochains, c'est Mélanie Crobalian qui va venir partager son écriture de l'exil, Mélanie Richaud, avec une thématique très ouverte qui s'appelle Nous sommes les autres, Romain Buffat, par exemple, au niveau de l'écriture du lieu. Donc, je ne vais pas tous les citer parce qu'on en a une dizaine, mais à chaque fois, ce sont 2h30, on va entrer dans un univers. Venez, parce que vraiment, ce sont toujours des très bons moments d'échange. Et je vois arriver des fois des gens un peu timides qui repartent avec un sourire jusqu'aux oreilles et qui s'inscrivent pour les 3-4 suivants. C'est vraiment l'occasion d'aller expérimenter l'écriture parce qu'on est aussi une maison qui souhaite désacraliser l'écriture et puis se permettre d'aller sur ces chemins autour desquels souvent on tourne longtemps avant d'oser se lancer.
Dans ces 4 ans, enfin 3 ans vous l'avez dit, hein, d'activité réelle, vous avez sans nous citer des noms, mais enfin des moments où vous êtes dit bah voilà, on sert à quelque chose, il y a quelqu'un qui est arrivé tout mouillé de son innocence et qui après un chemin a réussi à publier.
Oui, on a des auteurs et des autrices qui ont des publications, qui ont gagné des prix, qui aujourd'hui poursuivent leur chemin avec un deuxième ouvrage et ça c'est extrêmement précieux. Et puis on a aussi juste des gens qui nous disent qu'ils sont très heureux d'avoir osé faire le pas et puis d'avoir commencé à écrire ou écrit le projet qu'ils portaient depuis très longtemps. Et ça, c'est toujours, ça me fait toujours des frissons, en fait.
Je le vois dans vos yeux. Je ne vous vois pas trembler, mais je vois dans vos yeux qu'il y a quelque chose. J'aimerais arriver à cette difficulté d'être écrivaine en Suisse romande. On connaît les limites du marché. Il y a beaucoup de maisons d'édition, mais est-ce qu'elles ont la force, justement, de mettre en avant un texte? On a cette espèce de mirage français. Il y a quelques écrivains qui arrivent tout à coup dans une maison prestigieuse et puis qui tire en avant en même temps, c'est très bien, hein, voilà, qui tire en avant la littérature. Comment vous la voyez, ce parc littéraire francophone suisse?
Je pense qu'il est d'une extrême richesse, qu'il est souvent trop méconnu et c'est bien dommage parce que c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un qui soit parle de son coin de pays mais soit parle parfois d'ailleurs mais avec le regard de l'endroit d'où il vit, il est né, c'est-à-dire la Suisse romande, avec les particularités qui sont les nôtres en termes de système politique, en termes de bagages, en termes de manière de raconter. On a plus d'une centaine de maisons d'édition en Suisse romande, c'est énorme en termes de bassin de population, c'est vraiment très important et je pense que c'est passionnant de pouvoir accompagner ces voix-là, qu'on puisse les entendre, qu'on puisse les lire, qu'on puisse partager, qu'on puisse rencontrer des classes. On l'a fait il n'y a pas si longtemps avec la MEL, avec l'opération Silence on lit à Martigny. C'est magique de voir des élèves qui tout d'un coup réalisent que la littérature c'est aussi quelque chose de vivant avec des gens comme eux et comme elle. Nous et elles exactement qui
je
peuvent...
pensais pas devoir vous rappeler celui-là hein, je pensais l'autre plutôt mais...
qui en fait découvrent que voilà c'est ce sont aussi des voix vivantes et pas des vieux messieurs morts depuis 200 ans. Je pense que ça participe à la richesse culturelle et Montaigne. Pour cela, on est vraiment dans un lieu qui est magnifique parce que on a aussi bien du jeune public que le grand bateau qu'est le Crochetant, que le quartier culturel de Malévaux. Et donc, on participe à cette énergie et à faire vivre ces voix.
Oui, parce que vocation large, hein, Suisse romande, oui. On l'a dit, mais ancrage local profond avec toutes les institutions culturelles qui sont non seulement des voisines, mais des partenaires.
Qui sont des partenaires. Cette année, en 2026, on aura l'occasion d'une conférence pour savoir... où s'arrête l'histoire, où commence la fiction avec Olivier May en collaboration avec le nouveau musée qui est aussi ici au château de Montépatrimoine. Et on se réjouit beaucoup de pouvoir mélanger ces genres-là et puis de créer cette émulation autour de la culture et puis on espère de donner envie.
Bon, il faut trouver des sous quand on dirige là.
Oui.
Hein? Bon, alors il y a des soutiens, il y a le canton, il y a la commune, on l'a dit, il y a la loterie romande comme souvent. Mais enfin, c'est un combat ça.
C'est un combat de tous les jours.
Vous l'aviez anticipé, j'imagine.
Un peu, mais on ne pensait pas que ce serait si difficile. Le fait d'être aussi protéiforme que la MEL, de faire de la formation, de faire de l'accompagnement, de faire de la visibilisation, d'être un lieu d'accueil, a beaucoup compliqué les choses au début. Je pense qu'on commence doucement à s'installer. On espère que les choses seront un peu plus sereines, parce que quand on a un ou deux mois de visibilité, on engage des gens sur la saison suivante sans savoir exactement comment ça va se passer. C'est compliqué. Donc si vous avez envie de faire un don à la MEL, n'hésitez pas, on sera heureux de vous avoir. Et puis on peut devenir membre, c'est 100 francs par année. Alors on n'a pas l'impression que c'est très important, mais quand on a 100, 200, 300 membres, eh ben, ça commence à faire des chiffres importants pour nous. Et ça permet de pouvoir porter ces projets. En plus, on en a des cartons de projets qu'on aimerait faire. Et puis aujourd'hui, on est un peu limité par les sous, par le temps à disposition. Et puis on ne peut pas vraiment engager. Donc ce serait bien qu'on puisse se développer plus. Il y a tellement de choses à faire.
Bon, en tout cas, l'optimisme a été là pendant 28 minutes. Hein. On a juste une petite minute là de...
Oui, il est là quand même, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il faut un peu d'argent pour pouvoir continuer.
Oui, puis il ne faut pas non plus se reposer sur le fait qu'il va être facile.
Oui.
Voilà, hein. L'argent public, c'est important de bien le mettre en valeur. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Abigail Serrant. Bon anniversaire à la MEL et puis long life.
Merci beaucoup.